Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
La rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 10e épisode de la 2e saison du podcast Calcio et Pépé. On est ravis de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de foot italien et je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Van Crochet, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui c'est le podcast d'actu, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis la fin janvier, sur le mois de février donc, depuis notre dernier podcast. On vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à nous encourager en partageant le podcast et en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, dont Apple Podcast. C'est hyper important pour nous et pour faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Vous le savez également désormais, nous sommes également sur patreon.com où nous réalisons du contenu supplémentaire, des hors-séries, des réactions à de l'actualité et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner sur patreon.com/calcioepépéguillaume. On a par exemple débriefé dernièrement le derby de Milan, le match OL-Juve et un prochain hors-série qui sortira dans la semaine avec les joueurs, joueurs méconnus ou sous-cotés à suivre en Serie A dans les prochains mois et années. Ça se passe donc sur Patreon, patreon.com/calcioepp. Et on débute, Guillaume, ce podcast avec un sujet finalement très actuel. Mais pas très sportif pour le coup. Enfin,
est-ce que tu crois?
Voilà, c'est loin des terrains pour le coup. C'est évidemment le coronavirus qui chamboule un peu toute la Serie A et notamment la gestion des matchs reportés en raison du coronavirus. Alors, on va essayer de faire très pédagogue dans cette séquence. On a plusieurs points qu'on va évoquer au fur et à mesure et avec une mise en contexte qui est évidemment obligatoire pour recontextualiser donc un petit peu avec les éléments clés. il y a eu 4 matchs de la 25e journée qui ont été reportés. Ces matchs sont Atalanta-Sassuolo, Inter-Samp, Hellas-Cagliari, Torino-Parme. Ensuite, il y a eu 5 matchs de la 26e journée qui ont été reportés. Juve-Inter, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa et Parme-Spal. Alors au départ, les 5 matchs reportés de la 26e journée devaient se jouer à huis clos, Guillaume. Ça, c'était la décision prise vendredi 28 février. Mais samedi 29 février, grande surprise, décision a été prise finalement de reporter ces matchs. Et s'en est suivi, évidemment, Guillaume, et ce sera notre premier point, des polémiques intenses et immenses.
Oui, oui, parce que comme tu l'as dit, la décision du coup a été prise le samedi, on va dire aux alentours de midi, il me semble, un peu avant. Il faut dire que samedi était prévu Udinese et Fiorentina à 18h. Donc au-delà des matchs du dimanche, il y avait quand même une équipe, la Fiorentina, qui était déjà sur place, à l'hôtel, en mise au vert, qui était prête à jouer. Et depuis samedi, c'est des énormes polémiques, c'est à coups de médias interposés, de déclarations, conférences de presse, et pas que les équipes qui n'ont pas joué. J'ai regardé la conférence de presse de Gattuso après le match du Napoli contre le Torino samedi soir, il en a parlé en disant soit on arrête tout championnat, soit on joue tous ensemble, mais c'est inutile de reporter des matchs et d'en jouer d'autres. Il y a évidemment eu la polémique avec Marotta, qui a pris position, on va dire, même dans plusieurs médias. Il a parlé à Sky, après à la Gazzetta, il a parlé vraiment à tous les médias. Voilà, en défendant l'Inter, voilà, qui est l'équipe qui a déjà un match de reporté, comme tu as dit, la semaine dernière avec la Sampdoria, qui a le match reporté, le gros choc contre la Juve. Donc voilà, il y a une énorme polémique, elle n'est pas terminée. On rappelle qu'il y a une assemblée, donc on enregistre lundi. Alors on est le 2 mars aujourd'hui, il me semble. Voilà, donc on enregistre lundi 2 mars. Le mercredi, voilà, il y a une nouvelle assemblée des clubs de Serie A. Et à l'heure où on parle, Johan, on ne sait toujours pas quel match on va avoir ce week-end. Est-ce qu'on va avoir les matchs de la 26e journée, c'est-à-dire la précédente, avec les matchs reportés et donc avec Inter, ou est-ce qu'on va avoir ce qui est programmé, donc la 27e? C'est une vraie question, on ne sait toujours pas. On sait une chose, c'est qu'il y aura la Coupe d'Italie mercredi et jeudi. La Juve recevra Milan, visiblement, de ce qui a été communiqué. Si ça ne change pas d'ici là, ce sera avec les portes ouvertes, c'est-à-dire avec du public, mais uniquement le public piémontais. Donc ça veut dire que les personnes émanant de Lombardie et d'ailleurs ne pourront pas venir. Alors moi, j'ai envie de te dire, mais les joueurs du Milan, du coup, qui s'entraînent à Milanello, qui sont du coup en Lombardie, alors eux, ils ont le droit de venir, mais ce qui est paradoxal, parce que si les gens de Lombardie ne peuvent pas venir, j'ai envie de te dire que les joueurs du Milan en soi n'auraient pas le droit non plus. Donc c'est vraiment un chaos total à tous les niveaux. Moi, comme je l'ai déjà dit sur Twitter, et je le dis également ici, c'est que j'ai l'impression d'un énorme gâchis. Ça veut dire que les instances, une fois de plus, voilà, une nouvelle fois, elles avaient vraiment, pour une fois, voilà, autant la semaine dernière, les décisions étaient prises dans l'urgence. C'est-à-dire que voilà, l'Italie, en deux jours, avait vraiment basculé dans voilà, il y a le coronavirus qui est arrivé, et ils ont dit, bon, pas du huis clos, avec les supporters qui étaient déjà sur place, on reporte, ce que je peux comprendre dans l'urgence. Cette semaine, on a eu une semaine pour réfléchir à quelle méthode et à quelle mesure voilà, se tenir. Comme tu l'as dit, le vendredi, les matchs étaient à huis clos. Évidemment que pour moi, pour toi et pour d'autres, Juve-Inter à huis clos, c'est vraiment dommage, c'est un gâchis énorme. Mais si tu communiques le vendredi que c'est à huis clos et que le samedi tu changes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça veut dire que la semaine prochaine, et je t'en parlais tout à l'heure en off, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus jouer à huis clos. Parce que comme tu as annulé les huis clos la semaine dernière, sans raison valable, visiblement, si pour l'image, ce que je comprends, mais dans ce cas-là, la semaine prochaine, cette semaine, du coup, ce n'est pas possible de jouer à huis clos. Soit on ouvre les portes pour tous les stades, soit on reporte tous les matchs. Mais du coup, jouer à huis clos, les équipes vont se sentir biaisées, lésées, et du coup, voilà, ça va créer un nouveau branle-bas de combat. Et voilà, en Italie, c'est vraiment un chaos qui est général et qui, à mon avis, n'est pas prêt encore de se terminer.
Alors, petite précision, j'avais oublié le match Sampdoria Hellas qui a été aussi reporté du coup lors de cette 26e journée, donc 6 matchs au lieu de 5. Sur les polémiques, on précise quand même, tu en as parlé de Marotta, quelques extraits de son une interview à la Gazzetta dello Sport. L'affaire a été mal gérée, le président de la Ligue a décidé tout seul. Il aurait dû convoquer un conseil extraordinaire pour une décision collégiale. Ce qui s'est passé est très grave, le championnat est faussé. Tu as parlé de Gattuso qui a lui aussi parlé de championnat faussé. On peut parler de Fonseca qui a expliqué que lui voulait que toute la journée soit repoussée pour l'équité de la compétition. On peut parler des mots très durs de Liverani, oui, qui lui a carrément fait des allusions à l'Italie du passé, entre guillemets, des magouilles, etc. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'à partir d'aujourd'hui, on ne pourrait plus jouer à huis clos, puisque effectivement, ça a été annulé, cette première décision a été cassée, donc il y aura un vrai problème aussi d'équité dans la décision si on faisait rejouer des matchs à huis clos alors qu'on en a annulé précédemment. Il faut quand même aussi parler du manque d'homogénéité, c'est notre deuxième point dans les décisions. Je prends un exemple très simple, la Ligue a reporté donc le match Hellas de l'Hellas Vérone la semaine dernière, donc en Vénétie. Mais on a joué en série B dans cette province ce week-end avec le fameux Chievo-Livourne, il y a aussi Cittadella contre la Cremonese et Venise contre Cosenza. Visiblement le virus doit s'arrêter aux portes des stades de série B, mais les portes ne sont pas étanches en série A. Il y a aussi eu deux tiers des matchs de série C qui ont été reportés. Donc il y a un vrai souci dans les divisions inférieures, et c'est là en fait où on voit que c'est pas une question de santé publique ou d'intérêt auprès de la population, c'est vraiment une affaire économique évidemment, puisque on joue sans problème en série C, on joue sans trop de problème. Les décisions entre série B, série C et série A sont totalement différentes, et donc il y a un vrai manque d'homogénéité dans les décisions, et ce qui rend aussi les gens vraiment à cran, les entraîneurs, les présidents, même les joueurs, j'imagine, qui voient des décisions être prises sans aucune logique par rapport à d'autres situations qui sont identiques. Et ça crée un vrai problème en Italie, puisque là, on est parti dans une espèce de guerre des mots, alors qu'on s'en passerait bien si la Ligue avait suffisamment d'intelligence pour prendre des décisions collégiales dès le départ, et où finalement, tout le monde s'était entendu sur des matchs à huis clos. Donc si cette décision avait été confirmée et que c'était resté comme ça, on se serait passé de largement et très facilement de nombreuses déclarations. Le troisième point, c'est le casse-tête des reports, du coup, Guillaume. La première chose, c'est que on a quand même 4 clubs avec 2 matchs reportés, Sassuolo, Sampdoria, Hellas, 5 clubs même, Hellas, Parme et l'Inter. Évidemment, hein, Sassuolo, Sampdoria, Hellas, Parme, personne n'en parle. Là encore, hein, c'est pas une question d'équité, mais bien économique, hein, parce que ces petits clubs-là, bon, écoute, on trouvera bien des dates pour eux, hein, mais pour l'Inter, c'est un peu plus complexe, mais aussi parce que l'Inter est engagé dans 3 compétitions. On le disait tout à l'heure, avant d'enregistrer, Guillaume, on plaisantait là-dessus, tu me disais, en fait, la Ligue, elle est en train d'espérer que l'Inter va se planter en Ligue Europa contre Getafe, puisque ça libérerait des dates ensuite pour faire jouer les matchs reportés. Ce qui est quand même une situation quand même très
particulière.
Ouais, très anormale. Ouais, hein, singulière. Ça, comme ça, et donc du coup, oui, pour l'Inter, ça devient compliqué parce que mettons que l'Inter aille assez loin en Ligue Europa et continue son chemin jusqu'en finale de la Coupe d'Italie. Alors évidemment, c'est deux conditions qui ne sont pas encore réunies, mais c'est probable. Et le rôle des instances, c'est de gérer les probabilités aussi. Ça va être très compliqué de trouver des dates pour faire jouer les matchs de l'Inter.
Alors déjà, dans le deuxième point que tu as cité, on peut rappeler aussi que les supporters de l'Atalanta ont été à Lecce.
C'est vrai.
Voilà, en Bergame, en Lombardie. Alors la courbe nord de l'Atalanta n'y a pas été parce qu'ils ont dit « nous, on n'est pas des pitres ». Et un coup, c'est ouvert, et un coup, c'est fermé, un coup, la tribune est ouverte, un coup, elle est refermée. Donc nous, on n'y va pas. Mais voilà, par exemple, on peut rappeler aussi les supporters de Bologne qui étaient à Rome contre la Lazio dimanche à 15h.
Donc, voilà, Émilie-Romagne, donc.
Exactement, par exemple. Donc, voilà, c'est une situation assez ubuesque qui est vraiment incompréhensible à tous les niveaux. Et sur le troisième point, l'Inter, évidemment, on parle du choc face à la Juve parce que, évidemment, on l'attendait tous, mais il faut aussi rappeler que l'Inter a un match retard contre la Samp et que pour le moment, dans tout ce qui est un peu théorique, c'est que l'Inter devrait récupérer son match contre la Sampdoria avant celui contre la Juve. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a aucune date pour Inter-Sampdoria. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas que l'Inter. Nous, on n'est pas là pour défendre un club ou un autre. On parle vraiment d'un championnat qui est dans une impasse. L'Inter, évidemment, en première ligne, parce que Marotta s'est exprimé à peu près partout. Et comme tu le disais, nous, on en a parlé un peu en off tout à l'heure. On ne va pas se mentir, si dimanche soir, Il y aura eu Brescia Inter et Juve-Lecce, par exemple. Je pense que la journée aurait été à huis clos et ça n'aurait pas posé beaucoup de problèmes pour les jouer. Sauf que quand tu as un choc comme ça, avec plus de 170 pays connectés pour retransmettre le match, pardon, et que le match dans un stade vide, moi j'y ai pensé longtemps en disant mais comment on peut jouer un derby d'Italie aussi important à huis clos? Voilà, l'imaginer était déjà assez paradoxal. Alors le vivre, je n'ose pas l'imaginer.
Ouais, mais après t'as la vraie vie qui se substitue à la compétition sportive, et donc en cas de voilà, pour des raisons de santé publique, tu peux aussi comprendre bah, le sport passe après quoi.
Exactement, comme je disais sur Twitter, c'est que le football est la chose la plus importante des moins importantes. Donc ce qui prime avant tout, c'est quand même la santé des Italiens et voilà, gérer ce virus qui grandit en Italie. Et voilà, une fois que tu as communiqué sur le fait de jouer à huis clos, tu sais que j'ai relu le communiqué avant qu'on enregistre. Et dans le communiqué, les instances parlent de sacrifices à faire pour disputer les matchs et donc les jouer à huis clos. Et le lendemain, tu as quand même une décision complètement inverse en décidant du coup de ne plus les jouer. Et la raison qui est invoquée, c'est l'image. Et l'image, on est tous d'accord que jouer à huis clos, pour l'image, c'est mauvais. Mais dans ce cas-là, un précédent, tu crées une jurisprudence, et tous les clubs qui vont jouer à domicile ce week-end, si c'est à huis clos, parce que j'ai du mal à imaginer le virus faire marche arrière en une semaine, Dieu sait que je le souhaite, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer. Imaginons que la Ligue décide, tel club jouera à huis clos, le club en question dira, bah non, pourquoi nous on va jouer à huis clos? Et la semaine dernière, c'était interdit. Et du moins, c'est annulé. Voilà, la Ligue a réussi à se mettre dans de sales draps toute seule en créant une jurisprudence. Et maintenant, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais maintenant, honnêtement, tu ne peux plus imaginer le match à huis clos. C'est-à-dire que...
Bah, ils peuvent toujours le faire parce qu'ils ont le pouvoir de décision, mais le problème, c'est que comment ça va être interprété derrière par les clubs.
Exactement. Alors moi, l'une des excuses, entre guillemets, ça pourrait être, bon, bah, maintenant, on ne peut plus reporter les matchs.
Et donc, c'est pas une excuse, fallait y penser avant, en fait, quand t'as des responsabilités comme ça. Moi, je trouve que, effectivement, les instances s'occupent du bon déroulement des compétitions. Et, il y a parfois des urgences à gérer, etc. Et quel besoin avait le président de la Ligue de prendre une décision unilatérale, tout seul comme un grand, alors qu'il n'y avait pas non plus, le feu, là-dessus, quoi. On pouvait très bien faire cette journée à huis clos et puis voir pour les prochaines par la suite. Là, il a voulu, sous prétexte de voir un stade à huis clos, c'est triste, etc. Très bien, mais au final, si ton match, t'es obligé de le faire jouer en milieu de semaine, la couverture médiatique sera pas la même non plus. Et puis derrière, tu te mets... parce que c'est pareil, il disait que c'était... Le président de la Ligue a expliqué, oui, c'est une décision qui a été prise de manière collégiale, etc. Sauf qu'il y a tellement de clubs qui se sont plaints que tu t'aperçois que c'est... Enfin, il y a plein de clubs qui n'étaient pas d'accord. Donc, c'est pareil, tu favorises qui, tu vas embêter qui pour les matchs d'après, etc. C'est compliqué. Après, on peut le préciser sans verser non plus dans la paranoïa ou dans le favoritisme ou ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que la Juve avait tout intérêt à ce que le match soit reporté, non pas joué à huis clos, puisqu'on le rappelle qu'un Juve-Inter en Italie en termes de recettes, c'est environ 5 millions d'euros ticketing, donc juste l'affluence, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, pour un club d'envergure qui a des dépenses énormes, qui est obligé de faire des augmentations de capital assez récemment pour assurer son train de vie, et c'est notamment lié à l'arrivée de Cristiano Ronaldo et aux nombreuses dépenses, bah, il faut aussi 5 millions d'euros, c'est une somme très importante. Donc voilà, donc ça, personne n'est dupe évidemment là-dessus non plus, sans verser dans la paranoïa. Et la Juve a eu raison aussi de le faire. Hein, je veux dire, ils sont dans leur bon droit. Après, il y a une instance qui est censée trancher. Voilà,
Et surtout, derrière tout ça, c'est encore aussi les tifosi qui sont mis à mal. Par exemple, tout simple, si imaginons la journée, du coup, la 26e journée, on la joue le week-end qui arrive, donc le deuxième week-end de mars, c'est-à-dire que toutes les journées d'après vont être décalées. Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de supporters, par exemple à l'étranger, qui prévoient des voyages. Il y a beaucoup de youth clubs, d'inter clubs, de Milan clubs, par exemple en France, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, qui prévoient des matchs à l'avance. Et ça voudrait dire que toutes les dates seraient décalées d'une semaine. Donc ce serait quand même assez ubuesque. On est dans une situation qui est très compliquée. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, il y aura une nouvelle assemblée mercredi, mais les solutions sont quand même assez difficiles. Marotta a encore dit tout à l'heure que le Juventus pourrait être joué le 9 mars, mais on rappelle que l'Inter va jouer Retafe le jeudi d'après. Et si alors je pense qu'on va basculer aussi sur le sportif, c'est pas une transition aussi, c'est que si le Juventus est joué vraiment et réellement le 13 mai, ce que j'ai peut-être du mal à imaginer parce que c'est quand même une hypothèse hein, finalement qui est en train d'être écartée, on parle quand même d'un match totalement différent. Je sais pas, imagine la Juve a 10 points de retard sous l'Inter ou inversement. Il y a tant de blessés d'un côté ou de l'autre, des suspendus. Ça serait quand même un match totalement différent de celui auquel on aurait dû assister.
Ouais, et puis il y
Donc,
a aussi le fait que ça alourdit sérieusement le calendrier de l'Inter, qui
pour le mois de mai,
enchaînerait voilà
ouais.
dans ces 6 derniers matchs, qui aurait déplacement à la Roma, déplacement à la Juve, donc réception du Napoli, déplacement à l'Atalanta.
Bon.
Voilà.
Plus
Donc
éventuellement les deux finales, du coup,
Italie et Europa League s'ils vont au bout.
Italie, Europa League. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai regardé le calendrier. Une petite parenthèse de l'Hellas Vérone. Dis-toi que l'Hellas Vérone n'a pas joué depuis 2 semaines et qu'ils avaient 5 diffidati, donc 5 joueurs passibles d'une suspension 4 cartons jaunes. Donc tu vois, par exemple, c'est une saison qui est bouleversante, entre guillemets, parce que honnêtement, je ne suis pas certain que ne pas jouer 2 semaines, c'est finalement meilleur pour le physique parce que tu t'arrêtes complètement
C'est ça.
de jouer, tu connais plus les matchs à haute intensité. Et tu vois, les diffidats, c'est quand même, voilà, on sait qu'en Italie, on surveille souvent les joueurs qui sont passés une suspension ou non. Et du coup, le match d'après, forcément, différent de ce qu'il aurait pu être. Donc, voilà, c'est
Bah,
quand même.
notamment pour l'adversaire de l'Hellas Vérone qui aurait
Exactement.
pu affronter une
Exactement.
équipe très diminuée de l'Hellas.
Voilà. Donc, c'est une saison qui est, voilà, on avait vraiment quand même un championnat qui avait tout pour être passionnant, excitant. Après, voilà, il faut le rappeler évidemment que la priorité, c'est la santé. Le football ne passe qu'après. Mais c'est la coordination des décisions, le un coup à huis clos, le un coup non, en l'espace de 24 heures. Voilà, c'est vraiment les instances italiennes. Je ne sais pas si toi t'es donné, Yohan, moi non.
Non,
C'est
non.
l'énième fois qu'on assiste à ce genre de choses. Mais cette fois, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fracture hein,
Et
entre les deux
justement,
parties.
tu parlais des instances. Il y a une polémique qui s'est ajoutée à la polémique, puisque la Ligue a été sous déjà le feu des critiques depuis quelque temps. Et là, c'est la Roma qui a rajouté une couche jeudi soir par l'intermédiaire de Paolo Fonseca au micro des télés italiennes. Mais clairement, concrètement, la Roma s'était plaint de la programmation de son match à Cagliari dimanche à 18h. Alors qu'elle avait joué en Belgique jeudi soir, donc ça faisait deux déplacements avec moins de 72 heures d'écart entre les deux matchs. La Roma avait dit, bah pourquoi nous on joue pas le lundi soir? Elle, en prenant pour exemple la Lazio qui sur 6 matchs de groupe d'Europa League avait joué 2 fois le lundi soir. La saison d'avant ça s'était déjà aussi passé, la Lazio avait joué 2 fois le lundi soir et la Roma n'a jamais joué le lundi soir pour permettre une meilleure récupération, transition entre Ligue Europa et championnat derrière. Donc c'est pour montrer aussi que au-delà du coronavirus il y a des vrais soucis dans l'organisation des compétitions et dans une certaine mesure d'équité entre les clubs. Alors, ça veut pas dire qu'il y a un favoritisme, encore une fois, je le répète, déclaré pour telle ou telle équipe, mais il y a des choses qui se passent qui sont quand même très étonnantes et ça, dans un pays qui adore la polémique, ça alimente
Ah oui,
justement.
ah ça c'est évident.
Ça alimente un certain nombre de théories du complot et de, alors ça c'est le plus grave, mais aussi de polémiques au quotidien et dont on se passerait bien, très franchement,
C'est
avec
de l'amateurisme, tout
ouais,
simplement, c'est de
exactement,
l'amateurisme.
avec une ligue plus professionnelle, on se passerait bien de genre de débats et de
Comme
polémiques.
tu l'as dit, hein, tes exemples sur la série B quand même sont assez éclatants, quoi. C'est assez dingue à croire que le virus s'arrête en série B et reprend en série A. On est face à des choses quand même qui sont assez dingues.
On va reparler un peu de sportif, Guillaume. On va parler
Allons-y.
du Milan, qui n'a pas joué, lui, ce week-end, vu que son match a été reporté contre le Genoa. Alors bon, de sportif, on va encore pas beaucoup parler de terrain, en l'occurrence avec le Milan. Tu vas nous parler un peu de la crise interne au Milan. Alors je vais essayer de résumer en 2, 3 phrases, et puis je te laisserai dérouler, derrière. Clairement, aujourd'hui, il y a deux visions au sein de la gouvernance du Milan. Il y a la vision Elliott, qui est le propriétaire du Milan, qui a donc récupéré le club après le défaut de paiement de ce fameux Yong Hong Lee, qui avait des crédits auprès de cette banque Elliott, enfin de ce fonds d'investissement, pas de cette banque. Donc la vision d'Elliott, c'est du long terme avec des jeunes, du trading de joueurs. Et donc le représentant, entre guillemets, d'Elliott, du propriétaire, c'est Gazidis, en termes de poste à responsabilité au Milan. Et puis il y a la vision Maldini-Boban, on va l'appeler comme ça, les dirigeants techniques, entre guillemets, de ce qu'on appelle l'area technica au Milan. Et Maldini, c'est quoi son poste exact à...
Alors, il est directeur technique de l'area sportive, de tout ce qui est sportif.
Voilà, c'est ça.
On peut dire le directeur, entre guillemets, du football.
Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, c'est un peu deux postes qui se marchent dessus, je trouve, entre Boban et Maldini.
Mais dis-toi qu'il y a toujours, il y a aussi Massara, hein, au sein de la Roma.
Qui est directeur sportif, lui, pour le coup.
Ouais, donc, c'est particulier.
Et donc, ces deux dirigeants, Maldini et Boban, qui ont connu le Grand Milan, eux, pour le coup, hein, le Milan qui gagne, etc. Et eux veulent, entre guillemets, un Grand Milan tout de suite, c'est-à-dire des investissements et pas recruter que des jeunes pour les trader par la suite. Et donc, il y a ces deux visions-là. Et donc, le dernier élément de contexte que je vais donner, c'est l'interview suicidaire de Boban dans la Gazzetta. Donc, c'était samedi 29 février. Donc, c'était un très dense un samedi entre Marotta et Boban. Oui. Donc, Boban qui explique qu'il est ravi de bosser avec Maldini, un dirigeant très capable et crédible. Bon, il avait pas assez de louanges pour Maldini. Et puis, comme Gazidis, on a su qu'il a eu des contacts avec Ralf Rangnick, qui s'occupe de la galaxie Red Bull, entre autres, et qui est un personnage très influent en Allemagne et qui a été très influent pour de nombreux coachs allemands. Et donc, Boban a dit que c'était inélégant et irrespectueux de ne pas avoir informé les responsables techniques des discussions, donc en l'occurrence Boban lui-même et Maldini. Il a même... La plus forte phrase, c'est quand même « ce n'est pas digne du Milan », qui fait vraiment une sorte de gros choc, de petite bombe quand même quand il lâche ça. Et après, il a expliqué « on doit rencontrer Elliott pour savoir ce qu'on va faire, on doit connaître le budget et les objectifs ». Et donc du coup, Guillaume, on fait comment maintenant?
Tu peux rajouter aussi une chose, c'est qu'une semaine, je crois quasiment tout pile avant l'interview de Boban, à la Gazeta, c'est que Gazidis en avait aussi fait une, et où il disait « mais non, un Milan, c'est l'unité qui prime, il n'y a qu'un seul Milan ». Et en Italie, du coup, on appelle ce Milan-là, ce Milan aux deux âmes, voilà, avec les deux visions que t'as très bien expliquées. Alors comment on fait? Bah, j'ai envie de te dire que c'est l'énième fois que Milan est confronté à ce genre de problème et que il va forcément se terminer sur une séparation. Pour moi, l'interview de Boban, c'est l'interview de quelqu'un qui sait que les idées sont jetées et que voilà, à la fin de la saison, il va partir avec probablement Maldini. Les deux visions sont tellement opposées, c'est que, comme tu l'as dit, Elliott, pour résumer un peu, c'est un peu, on va dire, pour grossir le trait, c'est le projet du LOSC, c'est-à-dire du trading de joueurs, acheter beaucoup de jeunes, par exemple comme Raphaël Leao, qui était acheté à Lille l'été dernier, alors que Boban et Maldini, eux, veulent vraiment un mix d'expérience et de jeunes joueurs. On l'a vu avec l'arrivée d'Ibra en décembre dernier. Donc c'est l'énième changement qui va s'opérer. Ralf Rangnick va probablement arriver dans un football qu'il ne connaît pas forcément. Les supporters sont déjà assez hostiles par rapport à son arrivée aussi parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que Milan repart de zéro. Alors qu'en soi, si on résume bien, le travail de Maldini et Boban, le dernier mercato, Bennacer, Théo Hernandez, bon, l'arrivée d'Ibra en décembre, Krunic qui est aussi un bon élément même s'il est blessé actuellement, elle n'a pas été si mauvaise. La grosse erreur de ce duo-là, c'est Gianpaolo qui a été surtout le choix de Maldini, conforté par l'avis de Boban. Et voilà, c'est aussi pour ça que Milan est actuellement dans le ventre mou du classement. Mais Milan va encore repartir de zéro. J'ai du mal à voir un possible compromis entre les deux. Elliott a une vision, comme tu l'as dit, alors c'est plus du moyen terme, peut-être encore 3-4 ans. On a longtemps parlé de Bernard Arnault qui pourrait arriver, le patron de LVMH, mais voilà, c'était visiblement que du pur fantasme. N'en déplaise aux supporters de Milan qui n'auront pas leur maillot Louis Vuitton, comme on a pu voir circuler sur Twitter, et d'ailleurs, ils auraient été très beaux. Mais voilà, ça me paraît assez compliqué. Mais c'est vrai que tu vois, pendant que l'Inter quand même retrouve le sommet du classement avec des bases assez solides, un entraîneur qui est top et des dirigeants, bah voilà, avec Hervé Zanetti, avec Beppe Marotta quand même, qui est un des grands patrons du foot italien, plus un président très jeune. Mais c'est vrai qu'à Milan, voilà, Golden Singer, on l'a vu que très peu de fois à Milan, l'un des patrons de Elliott, Scaroni, qu'on a complètement oublié, qui est le président du Milan AC, qui est invisible. Pourtant, on a complètement oublié. Si tu veux, il y a vraiment aussi beaucoup trop de dirigeants, comme tu l'as dit. Tu vois, on sait même plus leur poste. Boban, Maldini, Massara, Scaroni, Gazidis, qui est très décrié. J'ai essayé de lire quelques articles aussi sur les médias anglais à l'époque, quand il était à Arsenal. J'ai pas lu des bonnes choses. Les supporters des Gunners étaient aussi heureux qu'ils partent lors de son départ. Donc voilà, c'est une figure qui est pas très appréciée, même à Milan. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le départ de Maldini et Boban, ça serait quand même un mauvais signe pour le projet du Milan, parce que j'ai du mal quand même à avoir un projet jeune. Milan n'est pas Lille, Milan n'est pas Leipzig, Milan n'est pas Salzbourg. Milan doit gagner, c'est un grand club, une équipe moyenne, mais ça reste quand même un grand club en Italie et même sur la scène mondiale, hein, même s'ils sont plus les champions depuis un bout de temps. Et voilà, un projet jeune à Milan, c'est infaisable. Et tu sais, toi comme moi, qu'il n'y a pas du tout la patience pour faire grandir des jeunes. Et donc, Boban et Maldini qui partent, c'est un gros coup pour le projet.
Est-ce que c'est tant un grand coup pour le projet? Parce que le projet, au final, j'ai l'impression que le projet d'Eliott, il a toujours été celui-là, en fait. Et c'est Boban et Maldini qui ont espéré peut-être faire bouger les choses. Mais c'est surtout, moi, plus que pour le projet, parce que j'ai l'impression que c'est un peu quand même ce qu'avait Eliott dans la tête depuis un moment. C'est surtout un grand coup pour l'environnement, entre guillemets, pour ce que ça représente, pour ce que ces deux-là représentent, pour l'histoire de ce club-là, pour les supporters, etc. Là, tu peux avoir une fracture propriétaire-supporter comme il y a par exemple à la Roma, qui est un moins grand club évidemment que l'AC Milan. Mais sur ce projet de jeunes, trading, vendre 4-5 joueurs par an, tu vois, la Roma, Nainggolan encore dit, de toute façon, la Roma, c'est compliqué pour eux, ils vendent 4 joueurs par an, donc voilà. Et le Milan, si ça devient ça aussi, parce que Elliott, derrière, c'est stopper l'hémorragie des pertes d'argent, parce qu'on sait qu'elles sont très, très lourdes. Ouais. Donc derrière, si ça passera d'abord par le trading, parce que c'est un moyen d'avoir très rapidement de l'argent. Après, ça permettra, si tu as des bons joueurs qui performent, etc., ça permettra aussi de reperformer sur le plan sportif, de se qualifier pour la Ligue des Champions, d'avoir plus de recettes, des revenus commerciaux plus importants, etc. Donc voilà, mais le risque de faire ça, quand les tifosi du Milan ont connu les plus grandes, les plus belles pages de l'histoire du club milanais, bah, c'est compliqué.
Pour moi, c'est difficilement faisable, et comme tu l'as dit, la fracture, on la voit déjà. Alors, les réseaux sociaux ne sont qu'un maigre échantillon des tifosi du Milan, mais
tu le vois au stade aussi.
Exactement, tu vois bien qu'il y a une fracture. Et Elliott, il n'a qu'une vision encore à moyen terme, c'est-à-dire que eux, leur but, comme tu l'as dit, c'est d'assainir les comptes et à terme de revendre le club.
Bien sûr.
Et évidemment, le revendre si possible, à une valeur marchande plus élevée de toutes les dépenses que le fonds d'investissement a pu faire jusqu'ici. Et voilà, donc Maldini et Boban, si tu veux, eux avaient envie de gagner dès maintenant, mais ils savent très bien que pour investir, c'est beaucoup trop important d'avoir un mélange avec quelques vieux briscards et des jeunes comme on a à Milan aujourd'hui. Alors que Elliott a une politique ferme, il y a eu l'exception Ibra, mais voilà, c'était selon moi qu'une exception. Et voilà, si tu vas chercher une figure comme Ralf Rangnick, c'est que ça ne fait que conforter le projet qui est en place. Si tu veux, ça me fait penser un peu, tu te rappelles l'été dernier avec toutes les rumeurs de Luis Campos,
oui.
Qui bosse avec Lille, hein. C'est pas ça du LOSC, mais il bosse avec Lille via son entreprise, et voilà, qui est vraiment un chercheur de talent hors pair, et c'est pour ça aussi que Milan à l'époque avait essayé de le faire venir parce qu'ils savent que Campos a cette vision, et on a encore vu cette saison avec Lille en Comisimène qui est un super attaquant. C'était vraiment l'homme qui dont le profil était considéré comme idéal pour Elliott et pour Gazidis. Et là avec Rangnick, c'est un peu le même genre, sauf que lui du coup pourrait être sûrement entraîneur. bon, ce serait vraiment l'homme à tout faire du club. Et du coup, bah, évidemment, il n'y aurait plus de place pour Madini, pour Boban, pour Massara sûrement. Donc oui, c'est une énième révolution. Ces dernières années, Milan a connu Leonardo, Maldini est arrivé avec le Brésilien. Il ne faut pas oublier l'époque Fassone et Mirabelli. Enfin, si tu veux, si Milan continue comme ça, j'ai du mal à voir comment, à terme, ils vont pouvoir se sortir de la crise, parce que ce n'est pas en changeant de direction toutes les années que tu peux arriver à quelque chose. Et de ce que je vois à Milan et de ce qu'on me dit, c'est que la fracture commence à grandir entre les supporters et le fonds Elliott. Donc, voilà, l'arrivée de probable, parce que même Bild l'a répété ce lundi, l'arrivée probable de Ranić ne ferait que, à mon avis, accentuer cette fracture entre les supporters et le fonds Elliott. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une saison en cours, même si elle n'est pas assez glorieuse pour Milan.
Ouais.
C'est que, ouais, t'as quand même Boban et Gazidis qui. Alors, plus Boban, parce que Gazidis, lui, avait manié un peu la langue de bois, et Boban, lui est rentré carrément dedans une semaine après. Et en tout ça, bah, t'as une saison à vivre. T'as Pioli, du coup, qui est complètement décrédibilisé par toutes ces déclarations, parce que Boban a confirmé que Ranić avait été contacté par le club. Donc, et les joueurs, du coup, est-ce que Donnarumma va vouloir rester dans ces conditions? Est-ce que Ibrahimovic va accepter de rester sans Boban et Maldini, qu'il avait harcelé de coups de téléphone à l'époque? Enfin, c'est tout un projet qui est remis en cause, enfin, tout un projet, du moins sportif, qui est remis en cause. Et Pioli, du coup, bah, voilà, comment tu veux qu'un entraîneur comme Pioli aujourd'hui ait de la crédibilité envers son vestiaire? C'est-à-dire que le vestiaire lit les journaux, il voit bien ce qui se passe, et ça serait bien qu'à terme, à mon avis, il va partir, donc les dirigeants aussi. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois tout l'environnement Milan qui va en pâtir, et à mon avis, on va repartir une énième fois de zéro du côté de Milan.
On va passer à la Juve, et je suis en train de me rendre compte qu'on va faire pas mal de sujets un peu négatifs aujourd'hui, en tout cas dans...
C'est pas qu'on vit une période très sereine. Hein,
ouais, c'est ça, effectivement, et du coup, on a commencé par le coronavirus, on a fait la crise interne au Milan, et là, on va parler de la Juve de Sarri. La Juve de Sarri qui déçoit beaucoup. Après la défaite de la Juve à Lyon en Ligue des Champions, on a fait un podcast spécial sur notre Patreon, qu'on vous conseille d'aller écouter, et où on avait déjà abordé quelques sujets. Si on fait un premier bilan, Guillaume, de la Juve et de Sarri, on reste sur, il reste donc, pardon, 2 mois et demi de compétition. Il y a pas mal de points à évoquer. Le premier, c'est l'identité de jeu. Cette Juve de Sarri ressemble à celle d'Allegri, mais vraiment, c'est des individualités très fortes, laissées un peu à leur imagination. Concrètement, pendant 70 mètres sur le terrain, bah, on essaie de mettre en place quelque chose de collectif, même si c'est quand même pas glorieux et très lent. Et puis les 30 derniers mètres, et Sarri l'avait dit lui-même, il laisse beaucoup de liberté à ses attaquants, peut-être un peu trop, parce qu'il n'y a pas grand-chose de cohérent d'un match à l'autre. Et surtout, ça se repose quand même beaucoup, beaucoup sur Cristiano Ronaldo et un peu sur Dybala, même si, par rapport à son début de saison, Dybala a quand même aussi baissé en intensité, en qualité de performance. Il y a un manque de créativité qui est évident dans cette équipe. La production à l'extérieur est très faible en termes de jeu, d'occasions franches, de grosses opportunités de marquer des buts. Et l'autre chose, c'est la défense qui est surexposée. La défense qui est très loin des standards de celle de Massimiliano Allegri. On a des joueurs qui sont en manque de repères, des joueurs qui ont plus les mécanismes très précis de comment défendre face à une transition, par exemple. On a des choses aberrantes qui arrivent, des Bonucci qui sort à 40 mètres de son terrain, à 40 mètres de son but, pardon, pour essayer d'intercepter quelque chose, qui ensuite laisse, alors je prends un exemple Bonucci, mais ça arrive avec d'autres, hein, qui laisse ensuite un boulevard aux autres joueurs. On a des joueurs beaucoup moins agressifs aussi. Et puis le deuxième chose, donc ça c'est l'identité de jeu. La deuxième chose, c'est qui me gêne peut-être encore plus, parce qu'à la limite, bon, la Juve de Sarri ressemble à celle d'Allegri, et puis bon, si ça ressemble à celle d'Allegri, elle est tout à fait capable de gagner, il n'y a pas trop de problème. Ce qui me gêne plus, c'est les phrases de Sarri là depuis début 2020, où en interview d'après match, il confirme totalement qu'en fait, il a pas la main mise sur ses joueurs et sur son équipe. Et ça me gêne un peu plus, notamment au travers de consignes spécifiques. Ça avait commencé pour, avec le match contre la Roma en Serie A où donc la Juve avait gagné 2-1. La Juve avait quand même beaucoup souffert, avait essuyé quelques offensives de la Roma. Et il avait expliqué en après-match que il n'avait pas du tout aimé la prestation de globalement collective de l'équipe et qu'il l'aurait aimé, il aurait souhaité que sa défense défende pour le coup 30 mètres plus haut sur le terrain. C'est-à-dire qu'il trouvait que sa défense était trop collée à sa surface de réparation et que pour Sarri, on le sait un peu, on commence à connaître ses préceptes qu'on a surtout vu à Empoli et à Naples, c'est une ligne de défense très haute et donc pour lui, la ligne de défense aurait dû être 30 mètres plus haut. Ce qui est quand même pas, je l'avais précisé dans un podcast précédent, un petit ajustement quand on demande à une défense d'être 30 mètres plus haut sur le terrain, c'est pas un petit truc qui se règle en deux secondes. La deuxième chose, c'est là contre Lyon, où il explique, on s'entraîne pour faire une circulation de balle très rapide, pour bouger les blocs, etc. Ça marche l'entraînement, mais on le fait pas en match. Là encore, c'est un élément, puisqu'on l'a vu contre Lyon, l'espèce de possession stérile, à toi, à moi, des passes qui servent à rien, qui déstabilisent pas le bloc, avec aucune profondeur, entre guillemets, entre les décrochages des joueurs, etc. Donc difficile de faire progresser le jeu, c'est pas un petit ajustement non plus entre passer d'une possession stérile à un jeu un peu plus le fameux hard rock de Jurgen Klopp, un ballon qui voyage beaucoup plus vite. Donc ça me gêne beaucoup parce que en fait on a maintenant la réponse à la question qui est en fait c'est pas tant Sarri qui s'est adapté à la Juve, c'est surtout que les joueurs ont vraiment du mal à répondre à ce que demande Sarri. Et ça, pour le coup, on est quand même au mois de mars maintenant.
Oui.
Ça commence à faire très long, Guillaume.
Ce qui est assez inquiétant, tu sais, tu l'as répété, sa déclaration après le match de Lyon, c'est qu'on parle quand même de concepts assez basiques.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une défense haute et une possession rapide, c'est quand même le béaba des dogmes de Sarri. Donc, si son équipe n'arrive pas à faire ça en mars... oui, c'est que c'est très inquiétant et le problème c'est que Sarri le dit tout haut, c'est-à-dire qu'il ne s'en cache pas et moi son interview à Sky Italia après le match à Lyon, il m'avait l'air complètement désabusé en disant mais oui mais à l'entraînement on fait une possession rapide et en match on n'y arrive pas et on est au mois de mars. Donc voilà, il y a vraiment j'ai pas envie de parler de fracture parce que c'est un peu précipité, mais il y a en tout cas une différence.
Une incompréhension peut-être.
Ouais, une incompréhension entre ce que demande Sarri et ce que font les joueurs. Et on l'a vu aussi grâce à une vidéo de RMC Sport à la mi-temps de Lyon-Juve, Ronaldo dit mais les milieux de terrain nous accompagnent pas assez, on est tout seul. Et là encore, alors là, on parle aussi de déficit structurel, c'est-à-dire que la Juve, Allegri, tu t'en souviens, avait rappelé à l'époque le besoin de révolution, c'est-à-dire que, comme en Italie, à un certain moment, les joueurs ont un peu la panne chapienne, le ventre plein. Donc, voilà, il faut apporter 2-3 éléments nouveaux, de qualité et du niveau de la Juve, pour rafraîchir, entre guillemets, un peu le vestiaire. Et ces déficits-là, tu les vois encore aujourd'hui, je me rappelle, on en parlait dans le podcast, cet été, tu l'as souligné à 2-3 reprises, les latéraux, la gestion des latéraux est catastrophique. Voilà, que ce soit sur la phase offensive ou défensive, voilà, ça apporte rien du tout. Le milieu de terrain qui n'accompagne ni l'attaque ni la défense, on n'a aucun milieu de terrain de rupture qui accélère le jeu. Voilà, c'est vraiment une Juve qui est méconnaissable et loin des standards qu'on aurait pu attendre. Et quand je vois les déclarations de Sarri qui sont très alarmistes, j'ai du mal à voir comment son aventure pourrait continuer s'il ne trouve pas les remercier. Parce que comme tu l'as dit, on est au mois de mars. C'est-à-dire que si ton équipe n'arrive pas à faire une possession rapide et à jouer haut comme tu le demandes depuis on va dire juillet-août, c'est que la compréhension est trop grande pour être résolue de manière assez, je vais dire, rapide.
Alors tu parlais des latéraux. C'est une théorie que je développe un peu depuis la dernière intersaison. C'est aussi lié à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. En fait, on constate, moi je trouve, puisque j'ai repris un peu les effectifs de la Juve des années précédentes, parce que c'est vrai que, tu vois, être toujours dans le jus de la compétition, etc., on oublie un peu, la mémoire s'efface un peu au fur et à mesure. Et c'est bien de temps en temps de faire quelques flashbacks, de retourner en arrière et de se rappeler un peu quel était l'effectif de la Juve en 2015-2016, 2016-2017, ce genre de choses-là. Bon, alors effectivement, le milieu, c'est flagrant, hein. On est passé d'un milieu Pirlo, Pogba, Vidal, qui était parmi les meilleurs d'Europe à quelque chose de très banal au final, comme aujourd'hui ou même la saison dernière, c'était déjà le cas la saison passée. Mais justement, on l'avait déjà dit la saison passée, on avait déjà fait cette réflexion-là, mais c'était plus lié au prisme d'Allegri. C'était « Ouais, mais les joueurs sont pas assez créatifs parce que la tactique est beaucoup trop rigide d'Allegri, ou elle est beaucoup trop défensive, donc du coup, les joueurs, ils osent pas trop. » Donc en fait, c'est aussi un problème de profil de joueur. Et moi, je trouve que l'arrivée de Ronaldo a eu beaucoup de bons côtés. Et pas que pour la Juve, aussi pour la Serie A, en termes d'exposition médiatique, c'est évident. Pour la vente de droits commerciaux aussi. Développer des revenus annexes, évidemment. Le ticketing, le merchandising. Donc tout ça, pour la Juve, c'est très important. En termes sportifs aussi, on va pas réduire simplement Ronaldo à une machine médiatique ou machine business, mais c'est aussi un formidable joueur, et c'est toujours bon de le rappeler. Mais en fait, cette arrivée-là et cet investissement-là, qui en termes d'indemnité de transfert, 117 millions, si je dis pas de bêtises, avec les... Je sais plus si c'est 112 ou 117 avec les...
Les différentes commissions. Si, c'est légèrement supérieur à 115, ouais.
Et extravagant, évidemment, mais pas... on n'est pas sur du 220 comme le PSG avec Neymar, par exemple, qui est totalement hors marché, ou... Enfin, et encore, ça se discute, hein. Mais c'est aussi le salaire. Qui est quand même de plus de 30 millions d'euros annuels, non chargés. Oui. Donc ça, c'est Ronaldo, c'est ce qui touche, les 30 millions. Alors on sait que les espèces de mécanismes d'impatriation, les clubs ont beaucoup moins de charges sur les salaires-là, mais c'est quand même conséquent. On est quand même sur des millions d'euros supplémentaires par rapport aux 30 millions d'euros versés annuellement à Ronaldo. Et moi, du coup, je me suis dit qu'il y avait une vraie paupérisation de l'effectif. L'effectif a perdu en
qualité
et en profondeur de banc aussi. La preuve en est, c'est que la Juve a décidé de faire la saison avec 3 latéraux, donc pour 2 postes, dont 2 se blessent très, très régulièrement. Et je veux dire, dans une Juve normalement préparée, organisée, construite, avec des moyens financiers importants, qui ont été un peu amputés par Ronaldo, parce que derrière, t'es obligé aussi de faire des augmentations de capital pour couvrir toutes tes dépenses et tes investissements futurs, bah ton équipe, elle est devenue moins forte. Alors, c'est sans doute un équilibre. La présence de Ronaldo n'a pas empêché la Juve de remporter le championnat la saison passée. Peut-être que ça ne l'empêchera pas de le remporter aussi cette saison. Mais face à des équipes européennes qui jouent un peu différemment, qui, elles, ont fait d'autres choix, qui ont des équipes beaucoup plus fortes collectivement et aussi individuellement, bah ça coince. Et l'année dernière, dis-toi une chose, c'est que la Juve perd contre l'Ajax, donc ils perdent en quart de finale. Si cette année, alors ils ont largement les possibilités, les capacités de renverser l'OL, mais si derrière ça perd en huitième contre l'OL, alors que t'as fait venir Ronaldo pour te faire passer le cap, on est au bord de l'accident industriel, pas de catastrophe, mais de l'accident industriel.
Évidemment. Moi, je pense que la direction de la Juve cet été, du moins au moment de changer d'entraîneur, a un peu sous-estimé tout ce que tu viens de dire, ces déficits structurels, en pensant uniquement pouvoir révolutionner l'effectif avec l'arrivée de Sarri. C'est-à-dire que quand Allegri demandait 4-5 recrues dans chaque ligne, la Juve s'est dit... on peut révolutionner l'effectif à travers le jeu et du coup à travers Sarri, qui était, on va dire, le plan B du rêve Guardiola. Agnelli, j'ai regardé son interview à Radio 24 la semaine dernière, et il l'a pas trop caché en disant que oui, le grand rêve c'était d'attirer Guardiola un jour. Et en recrutant Sarri, la Juve va un peu fermer les yeux sur tous ces problèmes-là. Et penser uniquement pouvoir les résoudre à travers le jeu, ce qui n'est pas arrivé. Et on voit bien que, comme tu as dit, la question des latéraux, les milieux de terrain, enfin, il y a des problèmes dans toutes les lignes. Et heureusement que Ronaldo est là. Alors, évidemment qu'il a coûté très cher. Et comme tu l'as dit, je pense que son arrivée forcément nécessite des sacrifices dans d'autres secteurs. Mais est-ce que tu imagines quand même la Juve sans Ronaldo cette année? Enfin, il a quand même sauvé à de nombreuses reprises. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors on a parlé de Dybala, qui est vrai qu'il a un petit coup de mou ces derniers temps, mais Paratici, l'été dernier, a voulu vendre Dybala.
Ouais.
C'est-à-dire que la Juve sans Dybala, cette année, en début de saison, il l'a sauvé sur des coups de génie hein, de nombreuses reprises, mais la Juve a quand même essayé de vendre Dybala. Donc, là, c'est quand même une politique qui est très... comment dire, qui suscite des interrogations, et on voit bien que ce que réclamait Allegri à l'époque, c'était pas si utopique. Et c'est vrai que là, les déficits, les problèmes, les défauts de la Juve surgissent aux yeux de tout le monde. Et le plus inquiétant, c'est vraiment le contenu des matchs. Hein, c'est-à-dire que voilà, dans ce football quand même qui est de plus en plus rapide, et on le voit surtout avec Liverpool, c'est que la Juve vraiment, voilà, cette position stérile, horizontale, enfin il y a vraiment pas grand chose à retenir, ça manque d'impact offensif, enfin tu vois l'équipe est tellement prévisible contre Lyon, honnêtement, alors certes Lyon va un peu mieux en ce moment, mais il faut aussi recontextualiser les choses, c'est que Lyon quand même traverse pas sa meilleure saison et que la Juve n'a quasiment rien produit, on parle de zéro tir cadré hein, il me semble contre Lyon, donc c'est dire le peu de production qu'à la Juve. Et c'est vrai, on peut souligner aussi une autre chose, c'est que on sait très bien que Sarri est pas forcément très connu pour sa capacité à s'adapter aussi à son effectif. Et il y a un paradoxe qui est assez éclatant, c'est que comme tu l'as dit, il accorde des libertés à Dybala et Ronaldo parce que c'est probablement des joueurs qui le nécessitent, mais il essaye toujours d'imposer aussi ses dogmes, c'est-à-dire les défenses hautes et une possession rapide. Donc tu vois, il y a aussi ce paradoxe qu'il doit avoir entre imposer ses idées, mais faire marche arrière sur quelques-unes, parce qu'il doit s'adapter à ses joueurs. Donc voilà, c'est clairement un mariage qui a du mal à prendre. Et si, comme tu l'as dit, ils sont éliminés contre Lyon, en 8e de finale des champions, qui ne gagnent pas le titre en Italie, et qu'ils venaient à perdre la Coupe d'Italie, ça serait une saison.
C'est le scénario cauchemar.
Voilà, évidemment, c'est le scénario catastrophique. Hein. Je le fais exprès, c'est pour voilà, parce que c'est un peu dramatique. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, imaginons que le Scudetto soit gagné et que la Coupe d'Italie aussi, enfin, te faire éliminer en 8e de Ligue des Champions par Lyon, la tâche serait quand même très grande. Comme tu l'as dit, Ronaldo est surtout venu pour ça. La Juve n'est pas besoin de Ronaldo pour gagner les titres parce qu'on a gagné 7 de suite sans lui. Donc oui, ça ferait évidemment tâche et elle serait forcément sur le bilan de Sarri à la fin de la saison.
On va passer au Napoli, Guillaume. Alors le Napoli, on a cherché un sujet précis et puis en fait, l'actualité nous a bien aidé puisque Dries Mertens a rejoint Marek Hamšík comme meilleur buteur de l'histoire du Napoli, 121 buts, toutes compétitions confondues, et c'est pour Dries Mertens en 310 matchs. Alors je te propose de faire un petit focus sur Mertens, déjà parce que c'est un joueur aussi que j'ai beaucoup suivi aux Pays-Bas, et donc j'ai pu noter un peu son évolution depuis 2011, on va dire ça, oui c'est ça, 2011. Alors il a débarqué en 2013 à Naples, en même temps d'ailleurs que Strootman est arrivé à la Roma, c'est le même été, et d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que les deux ont une histoire commune, puisqu'ils venaient tous les deux du PSV quand ils arrivent en Italie, ils étaient arrivés au PSV le même été aussi, et ils venaient du même club, ils venaient d'Utrecht, club néerlandais, donc voilà, ils sont un peu toujours suivis ces deux joueurs là. Alors le Mertens qu'on voit aujourd'hui et le Mertens du PSV, par exemple, n'ont rien à voir. Déjà en termes de positionnement, on va y revenir après, mais Mertens, c'était un pur ailier gauche, pour le coup. Donc un ailier faux-pied qui a régalé au PSV. C'était un des joueurs les plus influents du PSV, dans une très belle équipe du PSV, où il y avait aussi, donc du coup, Strootman. Il pouvait rentrer sur son pied droit et frapper et marquer. Alors ça, c'était évidemment sa spéciale. Et comme il a une très belle frappe de balle, c'était idéal. Il pouvait aussi délivrer des centres rentrant très très dangereux. Ils avaient quand t'as un attaquant qui a un très bon jeu de tête, c'est régalade. À l'époque, il devait y avoir Tim Matavs. Un point sur ses stats au PSV, 88 matchs, 45 buts, 43 passes décisives. C'est-à-dire qu'en 88 matchs, il a été décisif 88 fois, ce qui est plutôt pas mal. Alors, pour revenir sur son parcours au Napoli, la première saison d'apprentissage, la deuxième est un petit peu identique, c'est-à-dire que c'est dans le Naples de Benitez qui joue en 4-3-3 et qui a, malheureusement, quand Mertens arrive, il y a Insigne déjà qui a émergé de retour de prêt de Pescara. Et donc, deux personnes pour le même poste d'ailier gauche, c'était un peu trop. Donc en fait, ces deux premières saisons, Mertens va surtout sortir du banc. Il fait 33 et 31 apparitions, je crois, si j'ai bien noté les stats. Mais c'est surtout en sortant de banc. Mais il est décisif, il marque, il fait des passes décisives également. Et puis à l'arrivée de Sarri, on se dit à l'arrivée de Sarri, tu vois comme quoi une carrière ça va aussi très vite. On se dit ça part très mal, première saison, 7 titularisations seulement en Serie A, 33 apparitions, donc ça c'est encore plus de ce que sous Benitez, en gros il joue un match sur deux titulaire, un match sur deux sur le banc. Là on est très très loin de ça.
Il met quand même tout.
Ouais, on est quand même sur 5 buts, 5 passes décisives, donc bon, pas mal, mais pas extraordinaire. Le 4-3-3 de Sarri, même chose. Là, Hamzik descend dans le milieu à 3. Oui, parce que je dis 4-3-3 avec Benitez, c'était un 4-2-3 en fait avec Hamzik en 10. Et 4-3-3, c'est avec Sarri où Hamzik passe au milieu de terrain. Mais il y avait toujours qu'une seule place à gauche. C'est un peu le problème de Mertens pendant ses trois premières saisons à Naples. Bah, Insigne, il est un peu intouchable à gauche à l'époque. Caillerón, il est très bon à droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Insigne, il vient de sortir 12 buts en Serie A, donc c'est un peu compliqué. Et puis le malheur des uns faisant le bonheur des autres, comme on a l'habitude de dire, notamment dans le football. Milik se blesse gravement au début de la saison 2016-2017. L'alternative numéro 1, c'est Gabbiadini, mais bon, Sarri trouve que ça marche pas terrible. En plus, c'est pas un attaquant forcément qui techniquement va être dans les qualités de ce que veut Sarri, et Milik est infiniment meilleur, notamment dans les petits espaces, en remise, etc., que Gabbiadini. Donc bon, premier match, il joue contre la Roma, donc c'est pas le premier match de la saison, mais ça va être la 9e ou 10e journée, quelque chose comme ça, et Sarri décide d'aligner Insigne comme numéro 9. En cours de match, il remplace Gabbiadini. Bon, première expérience pas forcément concluante, il continue un petit peu, il marque pas, mais il trouve que ça alimente bien son jeu, ça Mertens dézone, est très bon dans les remises, évidemment, parce que dans les petits espaces, il est excellent, il fait bien jouer les autres, donc bon, il dit, allez, on continue comme ça. Et puis, les buts, c'est comme le ketchup, hein, comme dirait Cristiano Ronaldo, ça vient d'un seul coup, au bout de 12, 13, 14 journées, ça commence à marquer beaucoup, beaucoup de buts. Triplé contre Cagliari, triplé contre Bologne, quadruplé contre le Torino. Il finit la saison comme avec 34 buts en 46 matchs pour un faux numéro 9. Donc ça, c'est évidemment impressionnant parce que c'est sa première saison à ce poste-là.
Uniquement en Serie A?
Non, sur toutes 46 matchs. Ouais. Donc sur ce qu'il met aussi, je crois, il doit mettre... c'est 28 buts, je crois, en Serie A. Et donc, il doit en mettre un en Coupe d'Italie et 5 en Coupe d'Europe, de mémoire. Ça devient un point très important de cette équipe, une vraie référence, parce que c'est un attaquant de mouvement, en fait, il bouge beaucoup, il donne aucune référence, il fait des bons appels en profondeur, ce qui, mine de rien, il va assez vite aussi, il peut décrocher, faire jouer les autres, il peut légèrement aller sur la gauche pour combiner avec Insigne, rentrer et frapper dans le petit fil opposé, et d'ailleurs, il continue à le faire, hein, on se souvient de son but à Brescia, si je dis pas de bêtises, c'est encore une frappe roulée, petit filet, enfin, il y en a. Il n'a pas mal encore cette saison ou même ces dernières saisons où c'est vraiment ce type d'action-là. C'est un peu le Robben inverse. Alors pas avec la même aisance, voire fluidité de Robben dans le geste. Même parfois, il a un côté assez brut, très cassant. La façon de revenir sur son pied gauche, c'est très brutal, très cassant. Lui, c'est un peu plus désarticulé parfois, mais toujours aussi efficace, toujours très élégant, très dynamique sur les premiers appuis, très actif aussi. C'est un joueur qui n'arrête pas de la première à la dernière minute, qui apporte beaucoup d'équilibre aussi à l'équipe. Et il en est arrivé à un point où c'est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Napoli. C'est, alors, côté napolitain, je pense qu'il y a eu deux coups durs, en fait. Certes, ils étaient très attachés à Hamzik, mais quand ces derniers mois, il a dépassé Maradona, Tu sais, t'as déjà le truc de dire, bon, il n'y a plus le record de Maradona. Maradona, oui. C'est notre idole. Donc déjà,
toucher à Diego Armando Maradona à Naples, c'est toujours compliqué.
Une mauvaise idée. Mais même si là, tu vois, ils adorent Hamzik. Je veux dire, c'est pas la question. Mais bon, t'as l'idole Maradona. Hamzik n'est pas une idole de Naples. C'est pas le dieu de Naples. Maradona l'est. Et là, derrière, quelques mois encore plus tard, Hamzik, qui est quand même un joueur très apprécié, comme je viens de le dire, bah, il se fait dépasser maintenant par Mertens, qui est apprécié aussi. Mais qui n'a pas le statut de capitaine comme l'avait aussi Hamzik derrière. Qui... Donc, quelle est la place réelle de Mertens aujourd'hui dans l'histoire du Napoli, tu vois, par rapport à... Alors, on a parlé de deux légendes, Hamzik et Maradona, mais... Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un joueur qui est très collectif, qui est très décisif, etc. Donc, c'est une vraie reconnaissance pour lui. En plus, c'est pas un joueur qu'on entend trop. Hein, dans la presse, se plaindre, mettre en difficulté ses entraîneurs ou des choses comme ça. Donc c'est bien pour lui, mais ce record-là ne fera pas de lui l'idole du São Paulo. Évidemment, pour autant, ça reste un joueur majeur, sans doute, dans les... Si on prend la décennie 2010-2019, enfin 2020, allez, on pousse jusqu'au mois de mars, un peu plus de 10 saisons. Bah, il sera sans doute dans les 3-4 joueurs très importants de cette période-là, Naples Guillaume.
Et pour revenir en termes du coup d'actualité, parce que tu as très bien décrit la carrière de Dries Mertens, c'est que normalement, après des mois de froid avec son président et de déclarations qu'a fait De Laurentiis pas très, comment dire, clémente envers Mertens, normalement, il devrait prolonger. Alors, je vais anticiper les questions que pourrait poser l'auditeur. C'est tout d'abord, à ton avis, pourquoi De Laurentiis s'est montré aussi, sévère ou du moins, on va dire même méchant avec Mertens, voire Caleron, parce que Caleron aussi était inclus dans sa déclaration. Et aussi, à ton avis, est-ce que ce Mertens-là peut encore apporter quelque chose au Napoli, parce qu'on sait aussi qu'on l'assimile souvent à la fin du cycle un peu, tu vois, de Sarri, qui fait partie un peu de ce noyau, tu vois, avec Alan, Koulibaly, même on en parle maintenant pour un possible départ l'été prochain. Ouais, il y a quand même des airs, on va dire, de révolution à Naples. Est-ce que tu penses que ce Mertens-là peut encore rester dans le futur projet technique du Napoli?
Alors, ta première question sur pourquoi De Laurentiis, je vais émettre une hypothèse, parce qu'évidemment, je suis pas...
On rappelle qu'il est en fin de contrat, hein. Ouais. Voilà, on rappelle quand même qu'il est en fin de contrat cette saison.
Je suis pas dans l'esprit de Laurentiis, donc...
T'aurais aimé?
pas forcément. Donc, je vais rien affirmer, mais ce que j'en vois d'extérieur, une observation que je fais, c'est que De Laurentiis, il a toujours entretenu des relations très ambiguës et complexes, à la fois avec ses entraîneurs, mais aussi avec ses joueurs stars. C'est-à-dire que c'est le premier à les complimenter et à dire que pour aller les chercher, c'est 100 millions d'euros. Mais en même temps, quand il y a 3 matchs perdus, c'est le premier à dire que les joueurs ont la grosse tête, que c'est des bons à rien, que s'ils veulent aller jouer en Chine et prendre le pactole, bah, qu'ils y aillent et qu'il en a rien à foutre. Enfin, tu vois, c'est toujours... Mertens, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et clairement, voilà, ces espèces de relations un peu très... très étrange, très spécial entre un président et ses joueurs stars. Et puis la deuxième question, c'est quelle est sa place dans le projet sportif du Napoli. Écoute, la première chose à dire, c'est que il va avoir 33 ans au mois de mai, donc évidemment qu'il a son âge. Donc clairement, ça va jouer aussi là-dessus. Est-ce que ça va être un titulaire indiscutable? Je suis pas sûr. Pas certain même. Maintenant, il offre beaucoup de choses. On le voit cette saison quand même. Quand Mertens est en forme, le Napoli va quand même mieux. Il met quand même encore des buts. Il fait encore des passes décisives. Donc, c'est évidemment un élément qui est encore très important. Après, il faut voir aussi ce que va faire Naples de manière plus globale. Tu vois, les joueurs qui ont été recrutés, c'est quand même des travailleurs, des besogneux, Ramani pour l'été prochain, on a Demé, Demeux en allemand, Demé en italien, on a Lobotka au milieu de terrain, donc on n'est pas sur...
Devant et Lozano aussi qui a été recruté.
Voilà, on n'est pas sur de la star totale. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision du Napoli, c'est une très bonne décision de Mertens. C'est très bien qu'il continue encore au Napoli, je pense qu'il a encore beaucoup à offrir et c'est un joueur sur lequel on peut compter. Et Naples aurait été vraiment idiot de s'en séparer librement à la fin, enfin gratuitement à la fin de la saison. Parce qu'on le voit cette saison, c'est encore un joueur qui est performant. Alors peut-être pas autant qu'il y a trois saisons, mais il est encore performant. Donc je suis content que le mariage continue entre guillemets. Maintenant, ça ne doit pas empêcher le Napoli de recruter aussi dans le secteur offensif. Ou en tout cas, de trouver un entraîneur qui parviendra à faire cohabiter Lozano, Milik, Mertens. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, c'est trois joueurs qui viennent du championnat des Pays-Bas, d'ailleurs. Plus Insigne, plus des joueurs comme ça, éventuellement une ou deux recrues. Voilà, il va falloir trouver une espèce d'osmose que n'a pas trouvé Ancelotti, que peine à trouver Gattuso, parce que c'est quand même pas brillant non plus. Même si ça va mieux sur le plan des résultats, sur le plan du jeu, bon, c'est poussif encore, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va bien continuer, parce que c'est un joueur que j'aime bien déjà sur le terrain, et en plus j'aime assez bien...
Et comme tu l'as dit, c'est quand même un joueur assez discret, même en dehors. Tu vois, on le voit même rarement livrer des interviews. Après quand même l'attaque frontale de De Laurentiis, il n'avait pas répondu. Enfin, oui, c'est vrai qu'en plus du joueur important qu'il est pour le Napoli, c'est aussi une personne et un personnage aussi à Naples, parce qu'on sait que tout le monde l'appelle Chiro, et voilà, il a été un peu adopté par la ville de Naples. Donc voilà, c'est vraiment un joueur, on va dire, un peu total qui a été adopté par la ville de Naples. Donc moi, je suis un peu comme toi, je suis assez content qu'il reste. Et surtout, j'aurais pas compris que Napoli laisse partir à 0 euros. Et on rappelle qu'il y avait une clause aussi très faible. Je crois qu'elle était à un peu moins de 30 millions d'euros. Donc ouais, c'était assez surprenant. Et je suis très content qu'il reste en Serie A.
Alors, tu vois, si on parlait du facteur décisif encore de Mertens à l'heure actuelle, il a quand même mis 6 buts en Ligue des Champions cette saison, ce qui est quand même pas négligeable. Il a mis 6 buts aussi en 12 titularisations en Serie A, donc ce qui est quand même pas négligeable non plus. Et puis en termes de passes décisives, il y a 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Napoli cette saison. Donc c'est sûr qu'on n'est pas à la saison des 28 buts, hein, mais son temps de jeu a beaucoup diminué. Et puis il n'en reste pas moins de décisives sur les
rencontres importantes. Et puis bientôt, on pourra rajouter les trois buts du Camp Nou qu'il va inscrire.
Espérons-le pour le Napoli, évidemment. On passe à la Roma et à l'Inter. Alors, on a deux petits sujets sur la Roma et l'Inter, parce que c'est des clubs dont on a beaucoup parlé récemment, donc on va pas forcément en rajouter une énorme couche. La Roma, je souhaitais évoquer quand même, puisque Paulo Fonseca en a parlé, c'est vrai que c'est important pour comprendre aussi dans quel moment est cette équipe, l'effectif qui est complètement rincé, usé, fatigué.
Blessé
aussi. Fonseca l'a admis avant le match à Cagliari en conférence de presse. Il a dit les joueurs sont très fatigués. Il a confirmé après le match à Cagliari remporté 4-3 en disant après le match contre la Gantoise, il y avait des joueurs qui étaient vraiment très fatigués et Dzeko était sans doute le plus fatigué d'entre tous. On sait que Dzeko il joue tous les matchs quasiment depuis le début de la saison faute d'alternative. Alors faute d'alternative, Guillaume, on a vu contre Cagliari que Kalinic,
oui. Qui l'eût cru,
était sorti un peu du bois et avait marqué un doublé et en dehors de ça, il fait plutôt un bon match. Donc on verra si ça peut se maintenir. Je suis pas persuadé non plus. Mais en tout cas, que Dzeko ait pu prendre un match de repos, c'est déjà ça de prix par rapport à tous les matchs qu'il a disputés cette saison. On le voit aussi en regardant un peu les matchs que l'effectif est usé, il y a beaucoup moins de courses offensives, il y a moins de mouvements autour du porteur de balle, il y a moins de courses défensives aussi, notamment du côté des latéraux. Et en fait, il y a un cercle vicieux pour la Roma, il y a la fatigue, mais elle est liée aussi aux blessures, parce qu'en fait, les joueurs jouent, ils se blessent. Pendant ce temps-là, il y a des joueurs, comme il y a plein de blessures en même temps, il y a des joueurs qui sont surutilisés. Derrière, ils se blessent, ils sont absents un mois. Ensuite, il faut se remettre au niveau physique, parce que quand t'es absent un mois, que tu fais pas de football pendant un mois, pas de match, et ben c'est très compliqué de revenir dans un football de plus en plus athlétique et rapide. C'est difficile de revenir au niveau. Donc ils sont dans le dur et pas très performants pendant 2 ou 3 rencontres. Ensuite, ils sont un peu performants pendant 3-4 matchs. Ils se reblessent, donc il faut revenir à nouveau. Enfin voilà, c'est un espèce de cercle vicieux où soit tu te blesses, soit tu joues tous les matchs, donc t'es complètement carbonisé sur une série de 15 matchs. Et donc, ça devient très compliqué de gérer cet effectif-là. Ça explique aussi des performances en dents de scie. Il y a des très bons matchs, des très mauvais. Il y a des séries de 3 mauvais, de 4 très bons. Ça dépend aussi qui est blessé, de qui revient, de quel est l'état de forme de ceux qui ont déjà joué deux matchs en revenant de blessure. Donc là, le troisième, ils sont un peu meilleurs. Enfin, tu vois, c'est très compliqué, en fait, d'avoir de la continuité dans les prestations.
C'est les montagnes russes.
Voilà, avec des joueurs qui sont souvent HS, à l'infirmerie, ou qui jouent tout le temps et donc cramés, avec un 11 qui change du coup assez régulièrement. Alors ça explique pas tout, parce qu'il y a eu des choix un peu discutables de Fonseca dernièrement, mais c'est compliqué de juger, et on le répétera jamais assez, on le disait déjà la saison passée, on le redit cette saison, c'est très compliqué de juger les prestations de la Roma, parce que quand tu vas finir encore sans doute à 50 blessés dans la saison, comme c'était le cas la saison dernière, enfin l'année dernière c'était que musculaire, là ça sera sans doute tout compris, y compris les blessures traumatiques. Comment tu veux vraiment juger une équipe, un entraîneur, des joueurs sur ça? C'est
2 mars, on a Diawara blessé, Pellegrini blessé. Qui on a d'autre du côté de la Roma? Mkhitaryan est revenu.
Alors on t'entend plus très bien, Guillaume. Ouais.
Ah, je suis là.
Voilà.
Je suis là.
Puis on a Diawara, Pellegrini. Ouais. Laisse-moi réfléchir. Tac.
Dzeko, c'est uniquement par précaution.
Ouais, on a Perotti qui a été blessé, Zaniolo.
Ah oui, Zaniolo.
Évidemment. Et puis, on doit avoir à peu près fait le tour là.
On peut dire qu'une des bonnes notes quand même, c'est quand même Mkhitaryan qui revient, on va dire.
Il est revenu il y a 2 matchs quoi.
Ouais. Ouais, mais bon, avec un Mkhitaryan comme il l'est en ce moment. Tu vois, hier, sa passe décisive, son accélération et sa passe D après pour Kalinic, c'est quand même parfait. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi un leader technique, mais comme tu l'as dit, il s'était blessé à la phase d'aller, il me semble, un match à Lecce avec Pellegrini.
Avec Pellegrini.
Comme tu l'as dit, le problème, c'est que c'est compliqué de se projeter avec la Roma parce que d'une semaine à l'autre, et j'ai envie de te dire, même d'un entraînement à l'autre, tu peux avoir une infirmerie qui se remplit ou. Et une absence compliquée, donc c'est une saison une nouvelle fois montagne russe pour la Roma. Et moi j'ai envie de te demander, mais c'est quand que ils vont prendre des mesures?
Mais ils ont essayé, Guillaume, hein. Ils ont changé les pelouses, changé les staffs, mais non, ça change rien, donc on verra. Je sais pas quoi dire d'autre qu'on verra, mais pour le moment il n'y a pas de solution.
Est-ce que la vente est en bonne voie?
La vente est en bonne voie. Et alors, juste pour revenir sur l'effectif, en fait, déjà, l'effectif est court de base quand même sur certains postes, notamment au milieu de terrain, avec 3 milieux de terrain pour 2 places. Ils ont essayé de rectifier ça cet hiver en prenant le jeune Villar qui jouait en D2 espagnol. Alors, c'est un sujet de débat sur notre Discord qu'on vous invite à rejoindre si vous vous abonnez à Patreon. Mais en fait, l'arrivée de Villar, c'est aussi un mauvais signal pour les jeunes de la Roma qui évoluent dans la Primavera, notamment Riccardi qui est un très bon milieu de terrain, qui a 18 ans, qui était pas loin de signer à la Juve pour faire une plus-value l'été dernier et qui risque de partir cet été pour faire simplement une plus-value. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher Villar, parce que il coûtait pas si cher que ça et derrière on mise plutôt sur Riccardi pour faire une plus-value. Donc il y a aussi des problèmes de gestion qui sont problématiques du côté de la Roma quand on pense plus aux plus-values qu'à l'intérêt sportif. Et oui, la vente est en bonne voie, puisque en suivant notamment ce que fait Phil Biafora, de journaliste d'Il Tempo, qui est remarquable sur le sujet, et notamment dans le suivi de la Roma, que je vous conseille, j'avais déjà mis plusieurs tweets sur Twitter pour vous conseiller de le suivre, mais je le répète lors de ce podcast, oui, ça devrait être effectif cette semaine. Donc ça se trouve, quand vous écouterez
le podcast,
voilà, la signature des contrats préliminaires devrait avoir lieu cette semaine, et puis le passage totalement effectif l'été prochain, logiquement, après la saison et le dernier bilan comptable. Du côté de l'Inter, Guillaume, donc tu vois, c'est encore pas un sujet glorieux, hein. On a fait un sujet positif, c'est sur Dries Mertens. Là, on va en faire un encore un peu négatif, côté de l'Inter, avec Diego Godin, qui est un peu la déception du mercato de l'Inter, avec, moi, je trouve, Alexis Sanchez, même si on m'a fait remarquer, notamment sur Patreon, des supporters de l'Inter nous ont dit que ça allait un peu mieux récemment. Il est en difficulté, notre ami Diego Godin.
Il est en difficulté au point que Bastoni lui a chippé sa place, et au point que les tifosi en ont un peu marre. Donc on rappelle que l'Inter avait un peu anticipé sa venue puisqu'il est en fin de contrat à l'Atletico. Mais c'est vrai que ses prestations sur le terrain sont, comment dire, plus que mitigés. Très lent, en retard sur le marquage, mauvais placement. Même dans la leadership, alors certes, il en arrive à l'Inter, mais c'est vrai que parfois, j'ai subi plus d'événements qu'autre chose. Donc, ouais, c'est une grosse déception parce qu'on pouvait s'attendre avec un joueur pareil qu'il apporte un sentiment de sécurité derrière. Et si tu me dis les meilleurs défenseurs de l'Inter, tu as quand même De Vrij qui, selon moi, est le meilleur en premier, Skriniar, évidemment, en deuxième, et Bastoni qui mine de rien, enchaîne les matchs et prouve tout le bien qu'on disait avant. Donc c'est vrai que pour Godin, c'est assez compliqué, au point que après ça c'est les meilleurs italiens, mais au point qu'on parle déjà d'un possible départ l'été prochain. Mais c'est vrai que oui, c'est une déception sur plusieurs points de vue, mis à part quelques éclaircies, notamment début de saison où voilà, il était arrivé et c'est vrai qu'il a fait quelques bons matchs. Mais voilà, à part, je pense qu'on peut facilement les compter sur les doigts de la main. Donc, ouais, c'est une grosse déception. Et voilà, au vu de son âge et de ce qu'il peut apporter, ce serait pas étonnant aussi que l'histoire se termine prématurément, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas totalement au niveau. Il a beaucoup de mal aussi à gérer et à tenir l'intensité que demande Conte et son jeu. Alors, en 3-5-2, Godin a vraiment beaucoup de mal à suivre ça. Donc, ouais, c'est une des déceptions. Il y en a eu des bonnes, mais c'est vrai que Godin, voilà, c'est assez compliqué.
Alors, il était dans une défense à 4 très agressive de l'Atlético, avec deux lignes très serrées. Donc, du coup, entre la défense et le milieu, il y avait très peu d'espace. Et c'était peut-être un peu plus facile pour lui de défendre. Effectivement, comme tu l'as dit, il a du mal à s'adapter à cette défense à 3 de Conte. À la fois, je trouve, sur le plan défensif, parce que il est en difficulté face à des joueurs. On sait que cette défense à 3 t'expose aussi parfois à des 1 contre 1, notamment lors de transitions, et face à des joueurs vifs, rapides, dribbleurs, il a beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal aussi dans le derby de Milan. Si tu te souviens, Guillaume, en première mi-temps, ça a été un calvaire pour lui. J'ai trouvé sa stat, il est à 61% de duels gagnés, ce qui est quand même très très bas, très loin de... En fait, sur toutes les catégories de stats, il est très loin de Skriniar, qui est l'autre stopper de cette équipe, puisque De Vrij est plus dans un rôle de libero qui couvre un peu en défense. Il est aussi en difficulté dans la construction, où il est beaucoup plus responsabilisé qu'à l'Atlético. Il perd des ballons de relance dangereux, et j'ai en mémoire plusieurs ballons contre notamment le Milan, ou des relances assez simples, trouver des joueurs entre les lignes, c'est très compliqué. Il n'avait pas cette responsabilité-là à l'Atlético, et peut-être que Conte lui en demande trop à ce niveau-là. En tout cas, quand t'es pas en forme, parfois t'essayes de prendre moins de risques, et donc du coup, c'est pas forcément très utile au schéma de l'Inter. Et comme tu l'as dit, Bastoni lui a pris sa place, et Bastoni, en fait, ça ajoute une qualité ou une conséquence supplémentaire positive, pour le coup, c'est que si tu mets Bastoni à gauche, eh bien, tu as Skriniar qui est de retour à droite. Et en fait, dans la relance, Skriniar a beaucoup de mal à positionner son corps, et ça, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus, lors d'un podcast un peu précédent. Il a beaucoup de mal à positionner son corps pour effectuer des relances correctes sur le côté gauche, entre guillemets. Alors que quand il est côté droit, il est très naturel à ce poste-là, et je trouve que sa relance est d'une meilleure qualité. Ou en tout cas, il prend toujours autant de risques à gauche qu'à droite, mais disons que ça marche un peu plus quand il est à droite qu'à gauche. Donc ça fait un truc supplémentaire positif, entre guillemets, dans le fait que Godin soit écarté au profit de Bastoni. Donc c'est à suivre, mais effectivement l'expérience pourrait être raccourcie, parce que je vois mal Godin rester dans les mêmes conditions si il part pour ne pas être titulaire la saison prochaine à son âge. Alors ensuite, on va faire un petit sujet sur... Alors, on n'a rien sur la Lazio, vraiment, ce mois-ci. On a fait beaucoup de Lazio les derniers podcasts. On a parlé de la course au Scudetto. D'ailleurs, on s'était pas trop trompé. On a parlé du retour en forme des leaders. On a fait un gros focus sur Ciro Immobile. On a parlé de Luis Alberto, ouais, de Sergei Milinkovic-Savic. Donc, c'est vrai qu'on
a... Acerbi aussi, on va en parler aussi, d'Acerbi.
Voilà, Acerbi, on en parle dans un hors-série, donc qui sera sur le site patreon.com. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de la Lazio, qu'on reviendra le mois prochain avec un sujet un peu plus fouillis, parce que On n'a pas spécialement envie de se répéter sans arrêt et de proposer un sujet banal, ça nous semble pas très intéressant. On va finir ce podcast, Guillaume, avec l'Atalanta, évidemment. Et là encore, comme on a beaucoup parlé de l'Atalanta, je me suis dit, on va faire un petit focus stat. Donc j'ai fait le tour un peu des plateformes.
T'as de quoi faire.
Stat, évidemment, avec un jeu aussi spectaculaire et dense, il y a évidemment de quoi faire. Donc je suis allé sur la plateforme Wisecot, que j'utilise quotidiennement. Donc les chiffres fous de l'Atalanta. Alors, il y a beaucoup de choses.
Est-ce que je dois me mettre assis avant que tu...
Tu peux t'asseoir, c'est aussi bien. C'est la deuxième meilleure attaque d'Europe. Alors quand je dis d'Europe, je résume, c'est les cinq grands championnats européens. Avec 2,63 buts par match en Serie A, derrière le Bayern, et ses 2,81 buts en Bundesliga, c'est l'équipe européenne qui marque le plus de buts de l'extérieur de la surface. 14 buts devant Leipzig et Bordeaux qui sont à 12. Alors ça, on sait, hein, qualité de frappe de joueurs comme Ilicic, comme Malinovski, évidemment que ça compte beaucoup. C'est l'équipe qui tire le plus au but avec donc d'Europe, avec 17,86 tirs par match en moyenne. Tu te rends compte, 18 tirs de moyenne par match, ce qui est quand même prodigieux. 3 matchs à plus de 7 buts cette saison, c'est quand même pas rien. 13 matchs à plus de 3 buts cette saison, c'est-à-dire que l'Atalanta a disputé 33 matchs. Sur ces 33 matchs, il y en a 13 avec au moins 3 buts marqués, ce qui est absolument dingue. 14 buteurs différents. Dernier match sans avoir marqué le moindre but, c'est le 10 novembre 2019 contre la Samp, donc ça fera bientôt 4 mois. Il n'y a que 3 matchs cette saison sur 33 où l'Atalanta n'a pas marqué au moins un but. Donc on peut dire qu'au moins les supporters de l'Atalanta auront vibré sur 95% des matchs cette saison vu qu'il y a eu au moins un but à célébrer. Et puis là, d'autres stats un peu plus fouillis, mais qui mettent en valeur un peu le jeu de l'Atalanta. C'est la 8e équipe d'Europe, donc des 5 grands championnats européens, à concéder le moins d'expected goals against, c'est-à-dire qui se mettent le moins en danger défensivement, on va dire ça comme ça, pour résumer de manière un peu grossière la statistique. C'est l'équipe qui a la meilleure moyenne de centres réussis en Europe. Alors ça, c'est mais évidemment en évidence la qualité des pistons et l'importance des pistons sur les côtés, mais aussi la qualité du jeu aérien de nombreux joueurs. Et là, on pense tout de suite évidemment à Zapata, ou aux joueurs défensifs quand c'est consécutif à un corner par exemple, ou un corner joué directement ou à deux. Et puis aussi à Gossens par exemple, qui a une super détente. Et quand Attebourg centre côté droit, eh bien souvent Gossens au second poteau, et même chose à l'inverse, quand Gossens centre, tu as souvent Attebourg au deuxième poteau. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de centres, c'est aussi parce qu'il y a souvent des solutions dans l'axe et au second poteau pour les joueurs qui ont le ballon. La 4e équipe d'Europe dont les joueurs touchent le plus de balles dans la surface adverse, donc derrière des mastodontes comme City, le Bayern et le PSG. Ça veut dire aussi que c'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui se projette très bien et qui a des opportunités de se créer, de conclure des occasions, parce que quand on est la 4e d'équipe d'Europe à toucher le plus de ballons dans les surfaces adverses, c'est évidemment impactant. Et puis la dernière, alors ça c'est le Challenge Intensity, c'est une stat de Wisecot. En gros, c'est le nombre de duels, de tacles ou d'interceptions par minute de possession d'un adversaire. Donc ça c'est pour montrer, en gros, si tu veux, le pressing, à quel point ils veulent récupérer le ballon rapidement. Et ils sont la 8e équipe d'Europe à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des stats qui résument un peu à la fois la capacité de projection, des phases de jeu très précises avec les centres, la facilité à se créer des occasions avec le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, le nombre de projections aussi, du coup, dans la surface adverse, parce qu'il faut beaucoup de joueurs pour toucher des ballons, l'intensité dans le jeu, l'équipe qui marque des buts, les tirs de l'extérieur avec Ilicic, Malinovski et Co, les buteurs différents, c'est-à-dire que c'est pas juste un numéro 9 qui brille, mais c'est à peu près toute l'équipe qui est capable de marquer des buts.
Ouais. Les expected goals aussi, concédés, ça prouve aussi qu'il y a un certain équilibre.
Exactement, une équipe très bien organisée. Enfin voilà, ça résume toute cette flopée de stats que je viens de vous livrer, ça résume... je trouve assez fidèlement ce que fait l'Atalanta sur un terrain, et comme on est franchement séduit par le spectacle de cette Atalanta depuis maintenant très longtemps, et ben c'est bien de le mettre en valeur à travers les chiffres, et que les chiffres confirment l'observation.
Écoute, ils en ont collé 7 à Turin contre le Toro, 5 contre Milan à domicile, 5 contre Parme à domicile,
7 contre Lecce le week-end dernier. Enfin, c'est des chiffres. Alors, toute la flopée de ça que tu as donné, c'est, ouais, ça résume bien l'Atalanta. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que l'Atalanta est une réalité. Et aujourd'hui, elle s'est clairement inscrite dans le panorama des grandes équipes italiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors évidemment que dans la pensée collective, bon, bah, il y a l'Inter, Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, etc. Mais l'Atalanta aujourd'hui qui est quatrième est clairement une grande équipe du championnat d'Italie. Et probablement, on l'espère, elle sera en quart de finale avec des champions. C'est-à-dire que qui aurait cru, il y a quelques années, que c'est l'Atalanta de Bergame qui allait ramener San Siro en Ligue des Champions, enfin du moins en phase finale avec des champions, en huitième et probablement en quart. C'est assez dingue. Et oui, c'est une des plus belles épopées. Et espérons surtout qu'elle ne finisse jamais. Mais ouais, c'est une des plus belles histoires, épopées, tout ce que tu veux du football italien. Parce que en plus de gagner, d'emmener loin l'Italien des champions, en plus, elle est exceptionnelle à regarder. C'est-à-dire que c'est un régal à chaque fois. En mettre 7 à Lecce, 7 à Turin contre Torino, c'est assez dingue. Et c'est des stats qu'on n'est pas habitué à voir en Italie. Et je crois qu'en Serie A, ils en sont à 70 buts en 25 matchs ou 26 matchs. Enfin, c'est assez, assez rocambolesque. Et c'est vraiment une belle histoire. Et Gasperini en est le chef d'orchestre. Et en plus, on peut rappeler que, bah, par exemple, des joueurs comme Kulusevski va partir à la Juve et il a été formé à l'Atalanta, il va partir pour 35 millions, même s'il a part actuellement. Et tous les joueurs.
Moussa Barro qui est.
Ouais, évidemment, à Bologne. Ouais. Et on peut dire que les joueurs qui partent généralement de l'ADA ont toujours un peu de mal aux autres réalités parce que le mécanisme et ce que demande Gasperini est tellement bien exécuté que découvrir autre chose pour les joueurs qui sont à l'Atalanta, c'est compliqué. Je pense notamment à Cristante qui est ton chouchou à la Roma.
Oui.
qui est ici à Milan, Conti, alors qu'il a eu des blessures, mais qui a du mal aussi à revenir au niveau qu'on a pu connaître. Alors voilà, tous les joueurs qui partent de ça ont beaucoup de mal. Et par contre, par exemple, Zapata est en train d'exploser à l'Atalanta malgré une saison plus compliquée cette année parce qu'on sait qu'il a été aussi blessé, longtemps même blessé. Et voilà, tous les joueurs qui arrivent, alors j'espère que Muriel aussi à terme va exploser parce qu'on a des capacités, c'est un petit peu plus régulier. Mais l'Atalanta aujourd'hui est en train de devenir en plus une réalité de football italien, c'est aussi du football européen. C'est-à-dire que si elle se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est quand même assez dingue, quoi. C'est une histoire qui peut aller loin et c'est assez exceptionnel.
Mais tu sais, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque de Nicolas Bourdisseau. Quand la Roma a traversé une de ses nombreuses périodes de crise, de mémoire, c'était avec Ranieri comme entraîneur, mais pas le Ranieri récent, hein, le Ranieri 2009-2010, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou c'était même la saison d'après, ça devait être 2010-2011, bref, je me souviens plus forcément de la date exacte, mais il avait expliqué à Ranieri et devant les caméras que on joue comme on s'entraîne. Et tu sais que cette équipe de l'Atalanta, pour en avoir parlé avec des dirigeants de l'Atalanta, le plus impressionnant, c'est pas forcément les matchs, c'est les entraînements. Et donc, ils reproduisent fidèlement ce qui arrive aux entraînements dans les matchs. Et donc, pour eux, c'est pas vraiment une surprise, vu la qualité des entraînements. Et quand t'es habitué à mettre de l'intensité, en Serie A, bah, t'en mets aussi en Ligue des Champions. Et on va boucler là-dessus. C'est que, bah, la Juve qui ne met pas d'intensité en championnat, et bah, bizarrement, ils réussissent pas à en mettre en Ligue des Champions.
Et surtout, on lit souvent, oui, les joueurs de l'Atalanta courent plus. Non, ils courent mieux.
Oui.
C'est là qui est toute la différence. C'est qu'on a l'impression qu'ils courent plus. Mais ils courent tout simplement mieux et ils font pas des courses inutiles qui ne serviront à rien. Donc, voilà.
C'est notre moyen de terminer sur une bonne note avec un podcast qui était quand même assez négatif, on va dire, sur l'ensemble. Tiens, je regarde d'ailleurs, vu que tu en parlais, on dit les joueurs de l'Atalanta courent plus. Bah, figure-toi que l'Atalanta n'est que 9e au classement des équipes au nombre de kilomètres parcourus. Donc voilà.
C'est vrai, ça résume assez bien le propos.
Et Milan est 14e, d'ailleurs. Voilà pour ce 10e épisode de la 2e saison du podcast Calcio et Pépé. Un rappel, Guillaume, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Deezer, Spotify, Stitcher,
partout,
Podcast
partout.
Addict, etc., etc. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est vous, ça vous prendra 15 secondes et nous, ça nous ravira. Et ça nous servira aussi beaucoup. N'oubliez pas qu'on est aussi sur patreon.com/calciopp pour du contenu supplémentaire et des abonnements. On remercie d'ailleurs tous nos abonnés, nos premiers abonnés à Patreon. Et puis on se dit donc rendez-vous sur Patreon très prochainement, puisqu'il y a un hors-série qui va sortir sur les joueurs méconnus ou sous-cotés de Serie A suivre dans les prochains mois et prochaines saisons. Et puis on aura sans doute un petit quelque chose autour de la vente de la Roma, Guillaume, un petit podcast d'actu quand
bien
ça sera annoncé. Et puis sinon au mois prochain pour ceux qui nous écoutent sur le podcast gratuit. Merci Guillaume et à très vite.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.